L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM toujours radiophonique, donc en cette semaine spéciale, ça bouge dans le poste. En fait, partout en France, les 100 ans de la radio et aussi les 40 ans des radios libres. Alors nous avons commencé cette série d'émissions avec un invité maison, l'un de nos coprésidents, Frédéric Montfort, véritable enfant de la radio qui anime d'ailleurs sa propre web radio. Aujourd'hui, un autre passionné, tombé dans la marmite très tôt, marmite familiale, puisqu'il est le fils du fondateur d'une institution finistérienne, Radio Neptune, radio de la musique classique et du jazz, mais avec aussi des gens dedans. À commencer donc par le père de notre invité, Jean Le Corvoisier, qui est décédé en octobre 2019. Mais notre invité a repris le flambeau, ou plutôt le trident de Neptune, car lui aussi est un radioteur très éclairé, que je connais bien puisque nous avons travaillé dans la même radio qui n'était pas associative, c'était Chérie FM, une radio du groupe Énergie. Bonjour Jean-Louis Le Corvoisier.
Bonjour Véronique, merci pour cette très jolie introduction.
Bon ben, si ça te va... Ça me va aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie, enfin tes débuts de radioteur? Quand est-ce que ça a commencé? Sous la couette, à écouter quoi?
Alors, on a 4 heures, c'est ça?
Oui, c'est ça, voilà.
Les débuts, c'est assez simple. Mon père était radioamateur. Enfin, il avait un métier, mais il était passionné d'électronique, de radio, donc... Il s'intéressait à tout ce qui était diffusion par satellite, par toutes les bandes de radio possibles, etc. Je passe les détails. Et donc, j'étais habitué à faire des petits montages électroniques. Et puis, alors, peut-être pour reciter juste en deux mots l'époque, parce que...
Ouais, c'est quelle époque?
C'est, ouais. Alors, bon, mon époque, moi je suis né en 64, mais l'époque où apparaissent les radios, ça correspond à quelque chose de sociétal. On est en 81, on est plutôt à la fin des années 70. On sort d'une période un peu pesante. Sur les FM, il y a trois radios, en tout et pour tout, qui sont trois radios d'État. Et à l'époque, une radio d'État, ça a une signification politique. Il y a de la censure sur ces ondes-là.
Le ministre qui téléphone.
Voilà, donc censure sur le contenu parlé, hein, sur les informations, les magazines, mais aussi sur la musique. Donc il y a énormément d'artistes qui ne passent pas sur ces radios-là. Donc on est à une époque où les disques sont très répandus, où le Walkman va démarrer. Donc pour nos plus jeunes auditeurs, rappelons que c'était une petite boîte permettant d'écouter avec des petites cassettes de la musique.
Mais maintenant, les cassettes, ça revient. Donc,
oui,
alors,
c'est vrai.
Ce que c'est.
Voilà, et tout le monde se réfilait aux cassettes. Donc il y avait un grand besoin d'écoute de musique, un grand besoin d'expression aussi, parce que l'époque était assez lourde. Et c'est à ce moment-là que se développe en France la CIBI.
Ah ouais,
parce que le début de Radio Neptune, ça passe par la CIBI. La CIBI, Citizen Band, on achète un petit appareil, on le met dans sa voiture, et puis on discute avec des gens qu'on ne connaît pas.
C'est plutôt les routiers qui utilisent la CIBI dans l'image populaire.
Aujourd'hui et après 81. Mais avant, on avait aussi bien, effectivement, des routiers, des artisans, des commerçants, des architectes. Enfin, on pouvait commencer des conversations avec des agents tout à fait passionnants. Et on parlait aussi de musique. Et moi, je me bricole une radio... sur un canal CIBI que j'anime tous les soirs depuis la cuisine familiale où je prends le micro et puis je prends ma magnétocassette et puis je passe des morceaux que j'aime bien et qu'on n'entend pas ailleurs. Puis des copains me rejoignent et pareil, on fait la même chose. Et mon père voit ça, me dit « Attends, ton truc là, c'est pas terrible, je vais te faire quelque chose » et il me fabrique une table de mixage. C'est ma première.
Super.
En branchant un micro, le magnéto, et puis j'anime un truc qui s'appelait, je crois, Canal 12, parce qu'il y avait des canaux, c'est un CIBI de 1,40, j'occupe le 12.
Ah ouais, tu t'étais pas foulé sur le nom?
Non. Écoute, hein, on fait ce qu'on peut.
Oui,
hein.
Ce qu'on peut.
Non. Puis au moins, c'est clair. Hein.
C'est vrai que là, il n'y avait pas
d'ambiguïté.
Qu'est-ce que tu passais comme musique, par exemple?
Ah, beaucoup de rock.
Ah oui, quand même.
Beaucoup de rock.
Ah
ouais. Ouais. J'étais un grand fan, je suis toujours un peu, hein, de Springsteen. Il y avait Fleetwood Mac. C'était créneau très rock américain, un peu de rock anglais. Enfin bon, voilà.
Et le son était quand même correct par un son CIBI.
Non, c'était très mauvais.
Grave,
c'était
quoi.
Du niveau son téléphonique, en fait.
Ouais, c'est ça. Plus la cassette qui était déjà pas terrible.
Oui, enfin, bon. Ouais. Mais bon, ça existait. Et arrive l'explosion des radios, notamment dans le Finistère. Et puis, je tombe sur un petit montage, un petit kit, parce que ça circulait beaucoup, pour créer un émetteur FM.
Ah oui, on pouvait faire ça.
Ah oui, on trouvait plein de plans partout.
D'accord.
Hein,
bon. Ouais.
Donc, du coup, je me bricole un émetteur FM qui porte à 200 mètres autour de chez moi. Et qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, je branche mon magnétocassette dessus et je passe ma musique dans le quartier, je suis content. Puis mon père me dit « Attends, je vais t'en faire un vrai. Et voilà qu'il se lance dans un truc où il fabrique du micro jusqu'à l'antenne, en passant par la console et l'émetteur, il fabrique une station de radio.
Ah, génial.
Tout en me disant, prépare une émission, fais un truc, bah, écoute, t'es au lycée, fais un truc pour les lycéens. Donc je contacte deux ou trois autres copains et puis on se décide à créer un truc qui s'appellera, au début on ne sait pas comment, mais ça sera la radio des lycéens brestois. Alors comme il est prévu que la radio s'installe rue Neptune, parce qu'il y avait un projet de maison de quartier rue Neptune, on se dit, après avoir cherché un nom partout, Neptune, bah, la mer pour le Finistère c'est bien, et puis l'espace, l'avenir, tout ça, ça nous va bien. On décide de l'appeler Radio Neptune et le 3 mars 1982, on émet pendant 2 heures. Parce qu'à l'époque, les radios, ça n'émettait pas tout le temps.
Oui, ouais, hein, c'est vrai, ça, on ne s'en souvient pas. Ouais.
Bah non, mais la radio évasion fonctionne 24 heures sur 24. Bah à l'époque, les radios, elles émettaient, alors certaines émettaient aux heures de bureau, parce qu'il y avait des employés dedans. Donc c'était 9h à 17h, puis ça s'arrêtait le reste du temps. D'autres, c'était uniquement le soir ou le week-end. Enfin bon. Donc on démarre comme ça. 2 heures par semaine. On s'arrête à chaque fois qu'il y a des examens, des congés scolaires, etc. Mais très vite, ça attire d'autres personnes intéressées par le fait de faire de la radio. Et on va se retrouver avec 86 animateurs à émettre 24 heures 124. Et puis c'est un joyeux capharnaüm.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il n'y a aucune cohérence.
Mais il n'y avait même pas d'association derrière, en fait.
Ah si, il y avait une association qui était l'association qui voulait justement gérer la maison de quartier.
Ah oui, d'accord. Donc, ce n'était pas spécifiquement pour la radio, quoi.
Ouais. Non. Et voilà, on lance ça. Et on va vivre toutes sortes d'aventures. Parce que c'est Rémi bricole tout, hein, quand même, un peu à l'époque. Hein.
Mais alors, tu en as fait ton métier, mais finalement pas dans la radio associative au départ.
Alors si,
ah.
Si parce qu'en fait, la radio prend son envol, moi je pars en fac, et puis au bout d'un moment à la fac, j'en ai un peu assez, je vois qu'il commence à y avoir, bon ça se structure quand même, les radios à partir de 82, il commence à y avoir des dérogations d'émettre, puis ensuite des autorisations d'émettre, ça a des nuances importantes, mais on n'a pas le temps de développer ici.
Le CSA existait déjà ou...
Non, pas encore. C'est ça, ouais. Non, pas encore. Au début, on a une commission qui dépend du ministère de la Communication, la commission Holo, qui après va devenir la Haute Autorité de l'Audiovisuel, qui deviendra après la CNCL, qui deviendra le CSA, enfin bon...
Ouais, on adore les sigles dans ce pays.
Ah, on adore les complications surtout. Hein, pourquoi faire simple ? Bon, et en fait, en 86, on a des financements suffisants. Les études, ça m'a un peu saoulé, pour être très franc. Et donc, j'annonce à mes parents, un, j'arrête les études. Et deux, puisqu'il y a des financements à la radio, ben, je me lance dessus. Et mon père me dit d'accord, parce qu'il est président de l'association qui gère la radio. Mon père me dit d'accord, mais... à deux conditions.
Aha.
La première, je veux qu'il y ait de l'audience de l'autre côté, parce que si on embauche quelqu'un, il faut qu'il y ait un public, donc ok. Et la deuxième, pas plus de 6 mois. Il me dit ça en 1986.
Ouais,
nous
ouais.
sommes en 2021. bon. Papa, j'ai pas écouté. Bon, bref, donc 86, et je dis, bon, ok, mais je fais ce que je veux. Ouais, tu te débrouilles, mais il faut qu'on ait une ligne éditoriale, il faut que ce soit cohérent, etc. Bon, comme on était très porté sur le rock, je me dis, bah, je vais faire un truc, je vais voir qui écoute du rock à Brest. Donc, je fais le tour de tous les concerts, les organisateurs de concerts, les disquaires. À l'époque, il y en avait plein, des disquaires. Et toutes les semaines, je me fais envoyer les listes des meilleures ventes de disques rock à Brest. Et je constate que ça n'a rien à voir avec les ventes en France.
Ah oui, c'était vraiment spécifique, quoi. Ouais,
totalement. Ouais. Par exemple, Prince sort un disque. Dès la première semaine, il est numéro 1 des ventes. Il va mettre 8 mois, 9 mois à l'être en France. Donc du coup, je suis cette tendance-là. Je vais dans les concerts avec quelques copains, Frédéric Vaillant notamment, qui est toujours très présent aujourd'hui et qui fait un excellent site qui s'appelle radiobrest.net.
Exact.
Et je conseille aux éditeurs d'aller voir s'ils s'intéressent à l'histoire de la radio dans le Finistère. Il faut vraiment aller sur ce site. Et on constate dans les concerts qu'il y a le 45 tours de l'époque qui est sorti, bon, qui a un certain succès, mais qu'il y a d'autres morceaux sur les albums qui, eux, ont un succès fou en concert. On se dit, on va laisser tomber le 45 tours, on va passer ce morceau-là. Bon, donc ça, c'est 86.
Donc
bon,
déjà des morceaux qui ne sont pas les morceaux mainstream. Quoi.
Voilà, enfin, exactement.
Voilà, ouais.
Et 2 ans plus tard, je croise par hasard un des responsables d'Énergie Brest. Énergie venait de démarrer à Brest. Il me tend le sondage Médiamétrie. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et il me dit, tiens, regarde, nous, on est très contents. Alors, Énergie était numéro 1, mais c'était un peu logique pour l'époque. Et sur le sondage, je découvre qu'on fait un score d'audience absolument extraordinaire.
Mais Neptune avait commandé le sondage.
Ah, pas du tout, c'était Energy. Mais Energy était tellement content de dire à tout le monde qu'ils étaient numéro un qu'ils nous le donnaient.
Ah ouais.
Et ça coûtait 45 000 francs à l'époque.
Bah oui.
Et je regarde le truc et je vois qu'on est devant ce qui s'appelait à l'époque Europe 2, devant Skyrock, devant Fun, etc. C'est-à-dire on obtient un score, pour ceux qui connaissent la radio, 5,7% d'audience cumulée. C'est le plus haut score jamais atteint en France de l'histoire par une radio associative. Wow. Aucune radio associative n'a atteint ça. Et là, je tombe de mes chaises.
Et là, regardez, c'est la force de la radio locale, quoi, voilà. Vraiment.
Ouais. Vraiment,
qui colle au terrain.
Qui colle au terrain, ouais. Au goût des auditeurs. Qui
c'est ça.
Puis on faisait des événements aussi. On suivait les élections locales, par exemple, en direct.
Mais là, tu étais salarié. Mais tu étais le seul salarié.
Alors, non, il y avait Fred, je crois qu'il était à Cartan. Puis on avait des gens qui étaient. Alors, on a eu les TUC, puis les CES. Enfin, ouais. Aujourd'hui, on appelle ça contrat aidé. Mais on avait des gens à Cartan, mi-temps, etc.
Et puis des bénévoles.
Bénévoles.
Ah ouais.
Voilà. Et puis une grille des programmes qui était cohérente. Du lundi au dimanche. Sur la journée, on savait à peu près quel type de programme on allait retrouver. Et puis, toutes les émissions qui étaient un peu inclassables, c'était entre 20h et minuit, et puis le samedi dimanche.
Mais il s'est passé plus de 6 mois, je suppose, là, de salariat à Radio Neptune.
Ah oui, je vais être salarié de Neptune de 86 à 95.
Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé après, alors?
Comment dire, un léger désaccord sur l'orientation de la radio.
C'est ça, en fait.
Entre mon père président et moi salarié et responsable. Ajouté à ça le fait que mon père venait d'arriver en retraite et qu'il avait beaucoup de temps et qu'il avait une idée depuis très longtemps en tête, c'était de faire une radio classique et jazz.
Alors, ce qu'il n'y avait pas non plus.
Ah si, oui. Alors du jazz, on en passait déjà le soir. C'est-à-dire on en passait de 22h30 à 7h du matin. Et puis on rediffusait d'ailleurs des concerts de jazz du Vauban. Et on voyait que ça fonctionnait, parce que Charles Musil, patron du Vauban, nous a raconté ça. C'était très marrant. Dans un concert, il y a l'entracte. Et si le concert était bien, dans les minutes qui suivaient l'entracte, le début de l'entracte, il voyait arriver une foule de gens qui disaient « On a écouté le début sur Neptune, on a vu que c'était pas mal, donc on vient pour la suite du concert. »
S'il restait de la place.
Voilà, s'il restait de la place.
Ouais,
bon,
génial,
ouais. Donc on a diffusé des concerts, on a diffusé le Merfootbeat aussi, puisqu'on faisait du rock.
Il n'y a pas de raison, bien sûr.
Ouais. On a travaillé avec pas mal de gens. On a fait un truc aussi qui était assez rigolo, on faisait les soirées électorales, mais comme au niveau national. C'est-à-dire qu'on avait repéré les bureaux de vote qui étaient plutôt dans la moyenne, ceux un peu plus à droite, un peu plus à gauche. On avait des étudiants dans chaque bureau de vote qui récupéraient les premiers 100, ce qu'on appelle les premiers 100, donc les premiers comptages. À partir de ça, on faisait une estimation, comme pour une élection classique. Et dès 18h30, 18h45, on annonçait une tendance pour les élections municipales, cantonales, législatives et tout. Et généralement, à 19h30, on donnait le résultat avec une marge d'erreur. Donc on disait à 2% près, voilà le résultat des élections. On faisait défiler tous les candidats futurs élus ou battus. Et après, on était en programme musical et puis on attendait 20h45, la proclamation officielle des résultats qu'on diffuse en direct. Et pour nous, c'était plié. Sachant qu'à côté, nos collègues d'une grande radio publique, eux, ne pouvaient commencer qu'à partir de 20h. Ils n'avaient pas tout ce dispositif-là. Et eux attendaient la proclamation des résultats à 20h45. On avait donc 1h15 d'avance. Donc voilà, on faisait plein de coups comme ça.
Ah ouais, c'était vraiment de la radio locale.
Ah oui,
mais il faut beaucoup de bénévoles quoi, pour ça. C'est vraiment, il faut une grande force humaine.
Alors, il faut des gens un peu passionnés, un peu dingues qui ne comptent pas leurs heures.
Ouais.
Hein, ça, c'est pour les salariés, pour les bénévoles aussi. Et puis, il y avait un engouement. Il se passait quand même quelque chose de très fort au niveau des radios, qui est peut-être un peu moins puissant aujourd'hui.
Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais demander. Parce qu'en fait, après, tu as connu l'expérience de la radio non associative.
Oui, même tu peux terriblement comparer. Commerciale.
Ben voilà, tu peux comparer. Enfin, en gros, c'est quoi le... Enfin, qu'est-ce que ça t'a quand même apporté, la radio commerciale?
Le formatage, cher ami.
Dont on se défait assez bien, finalement, après.
Cela dit, c'est assez utile, parce qu'on apprend quand même des choses. Hein. Il y a des cadres, Mais ce qui a fait le succès de Chérie FM à Brest, pour être très clair, c'est que très vite, je n'ai pas suivi le format. C'est-à-dire que j'étais journaliste. Oui, parce qu'à une époque aussi, je suis passé de la musique au journalisme sur Neptune. Donc, je suis devenu journaliste sur cette radio commerciale. Et très vite, j'ai vu que leur système, leur principe, ça tenait pas debout. Enfin, ça collait pas à ce que je connaissais de l'info locale à Brest. Donc, ben, j'ai fait autre chose. Alors, le chef de l'époque a râlé en me disant, bah non, c'est pas le marketing a décidé qu'on devait faire ça, machin. Et je lui disais, oui, ça, c'est dans toute la France. C'est la moyenne nationale. À Brest, je sais que les auditeurs brestois, ils veulent ça. Et j'ai fini par lui dire, écoute, la radio là, sur laquelle je suis, je ne parle pas de Neptune, hein, elle fait le double de l'audience normale de cette station dans une ville de taille moyenne.
Ouais, c'est ça, voilà.
Alors, ou bien j'applique ton truc marketing et on redescend à l'audience habituelle, donc deux fois moins, d'accord, moi ça ne me pose pas de problème, je bosserai moins en plus, mais tu vas aller expliquer à tes commerciaux que leur radio qui était numéro 2 sur Brest, elle va devenir numéro 10 ou 12.
Voilà, chantage à l'audience. Hein.
C'est oh bah, ces gens-là, ils comprennent bien ce langage-là. Il faut leur parler comme ils connaissent.
C'est ça. Bon. C'est ça.
Donc, on m'a fichu la paix.
Voilà. Ouais. C'est ça. En fait, on peut, sur les radios musicales, on peut avoir une certaine liberté à partir du moment où c'est ça, on a du résultat. On est assez loin de Paris aussi. Hein.
Oui,
ça compte
aussi.
Quand même d'être dans le Finistère.
Ça peut aider.
Voilà, c'est ça. Et pendant ce temps-là, donc, Neptune est devenue vraiment une radio très classique et jazz, c'est ça enfin,
oui. Alors, bon, il y avait déjà un peu de classique le matin. Ça fonctionnait bien. Ça s'appelait la matinée classique de 9h à midi. Puis le reste du temps, c'était rock et puis des infos, etc. Donc, 95, ça bascule 100% classique le jour, jazz la nuit. Donc, ça suit son petit bonhomme de chemin.
Moi, il faisait des mesures d'audience
Alors, non, Neptune
père, non
ne payait pas de mesures d'audience, mais on arrive toujours à avoir les sondages d'un moyen, par un moyen ou un autre. Et c'était pas trop mal. C'est-à-dire, par rapport aux deux grands concurrents qui sont France Musique et Radio Classique, ben, on n'a pas à rougir. Quoi. Il y a des années, c'était devant, ouais, c'était à quasiment égalité, donc ça allait.
Et il n'y avait plus du tout de rock. Donc
non.
C'était sans doute plus le même auditoire.
Ah, plus du tout, non.
Et il y avait encore des programmes parlés, par exemple.
Alors, pendant plusieurs années, il n'y a plus rien eu. Et c'était uniquement musical. Et puis après, on est revenu en remettant des magazines. Il y a eu Pierre Gilles, qui était journaliste culturel à Ouest-France pendant très longtemps, qui, au moment de la retraite, j'étais allé l'attraper au début. J'étais fait un peu prier. Et puis finalement, il aimait bien, donc il animait une émission. On a eu plusieurs magazines qui se sont lancés. Pendant longtemps, on a diffusé les lundis de la santé, mais
vers sur radiophonique. C'est des conférences qui ont lieu à Brest avec des médecins.
Des conférences sur la santé. Mais bon, on les remontait de façon à ce que ça ait une forme radiophonique.
Hein, oui, bien sûr.
C'est pas diffusable en l'état. Bon, différents magazines et différentes équipes qui se sont succédées. Donc, il y avait un petit volant de bénévoles, mais pas autant qu'aujourd'hui.
Ouais, c'était largement automatisé aussi, je suppose, en termes techniques. Il y a eu aussi des évolutions, il y a eu une nouvelle fréquence aussi, c'est ça ?
Alors oui, on s'est développé. Alors, on a une fréquence à Quimper, enfin à côté de Quimper, Planéis. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, parce que du coup, on a pu récupérer des sondages, mais il ne faut pas le dire. On s'est rendu compte que le public de musique classique à Quimper est deux fois plus important que celui de Brest.
Peut-être donc, parce qu'il y a un festival, les semaines musicales, je ne sais pas.
Oui, je pense que c'est un peu lié à la sociologie.
Aussi,
oui, un petit peu, pour ne pas dire plus sur nos amis quimperois. Mais c'est pas tout à fait.
Ah, mais vraiment, ce conflit entre le Nord et le Sud.
Ah, c'est terrible. Hein,
ah, mais oui, mais Neptune était obligé de le résoudre, là, puisque c'était une radio, c'est devenu une radio qui s'adressait à tous les Finistériens.
Tout à fait. Et puis on a eu un émetteur aussi à Concarneau. Alors on a eu des problèmes à n'en plus finir à Concarneau. On a dû à contre-cœur arrêter la diffusion à Concarneau parce que c'était techniquement ingérable pour toutes sortes de raisons. À un moment aussi, on avait un émetteur près du Conquet. Bon, on ne sait pas trop pourquoi on s'est retrouvé au Conquet en plus de Brest. Bon, ça a été arrêté assez rapidement. Voilà, aujourd'hui, Neptune, c'est que Brest et Quimper, enfin le Sud Finistère.
Ça descend jusqu'où à peu près peut-être pas jusqu'au Pays Bigoudin, si, quand même.
Ah, si, on écoute très bien Pont-l'Abbé. Je connais une auditrice à Pont-l'Abbé, notamment. Bon. Donc, ça fonctionne bien.
Ça fait une bonne zone, quoi, en fait.
À peu près les deux tiers du Finistère.
Et ça va rechanger. Enfin, là, pendant toute cette période où tu étais déjà salarié de Chérie FM, mais est-ce que tu avais quand même, tu continuais à avoir une activité un peu dans Neptune
Non, pas du tout, j'avais pas le droit.
Ah ouais, carrément.
J'avais pas le droit. Ouais. Non, donc mon père m'en parlait évidemment.
Ouais,
donc
quand même,
parlait.
Ouais.
Mais non, je.
Ouais, c'est ça. Ça aurait été.
C'est un contrat d'exclusivité.
Quoi.
Oui, ah oui, ouais. Non, j'avais eu un ancien collègue qui s'était fait rattraper par la patrouille. Je me souviens, il avait été appelé par un de ses chefs. Donc du fameux groupe Énergie, qui lui avait dit « Mais dis donc, tu as des responsabilités dans une radio associative, je crois que c'était du côté de Grenoble. » En fait, il avait participé à un projet de radio associative qui était déposé auprès du CSA, qui n'avait jamais vu le jour. Mais les juristes de ce groupe-là, qui passent leur temps à analyser tout, bah, ils avaient pointé qu'il apparaissait dans le truc et que ce n'était pas normal parce qu'il avait un contrat d'exclusivité. Donc, il avait fallu qu'ils produisent des documents.
Alors que ça n'avait rien à voir.
Ça n'avait rien à voir. Ouais. Mais produire des documents disant que, un, ils n'avaient jamais eu de fréquence, que, deux, l'association, bah, elle existait sur le papier,
oui,
mais qu'il n'y avait rien derrière. Enfin, voilà. Non, ah, non,
ouais.
C'est... C'est un petit peu paranoïaque, mais le PDG de ce groupe se dit lui-même paranoïaque en disant que c'est ça qui a sauvé sa maison, donc on va lui laisser sa psychiatrie.
Et alors là, bah, tu as repris les rênes en fait, enfin, tu es président, comment ça se passe
Je suis président.
Oh, bravo, bravo.
Oui, madame.
Donc là, tu fais ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu fais?
Oui, enfin, ce que je veux. Nous avons des auditeurs très exigeants qui se rappellent régulièrement. Donc, je suis président. Je suis aussi un peu technicien. Je suis un peu l'homme orchestre, un peu comme l'était mon père. Et ça, je pense que ça a été, mais il le reconnaissait les dernières années, son grand défaut, ça a été d'essayer de tout faire tout le temps et d'arriver à faire tourner une radio 24 heures sur 24 avec des moyens ridicules. C'est-à-dire que quand on regarde les sondages médiamétrie sur la Bretagne, c'est là aussi on arrive à les avoir, Neptune est la première radio associative de Bretagne en audience cumulée et en termes de budget, on a moins de budget que Radio Évasion. Moi, je suis très content pour Évasion. Le problème, ce n'est pas Évasion ou d'autres beaucoup plus grosses qu'Évasion. Hein. Le problème, c'est que mon père n'a pas su faire.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et le problème de Neptune aujourd'hui, c'est que ben, quand on cherche à avoir des moyens supplémentaires, on dit, vous êtes gentil, mais...
Vous marchez très bien comme ça.
Ça fait 40 ans que ça fonctionne, vous avez de l'audience,
c'est
tout
ça.
Va bien.
Ouais.
Où est le problème?
Pour avoir des salariés, par exemple, à nouveau
Ah, ça serait une bonne chose.
Toi, tu aimerais être salarié de...
Ah, ça serait l'idéal.
Ouais.
Bah, de toute façon, là, bon, avec le confinement, mon activité professionnelle s'est en mise un peu à l'arrêt.
D'animation de conférence, je précise.
Voilà, merci. Bah, du coup, je me suis retrouvé à faire facilement 40 heures, 50 heures pour refaire toute la radio, parce qu'il a fallu tout refaire depuis un an et demi.
Ah oui, donc il y a une nouvelle grille, non, quand même. Il y a quand même du classique et du jazz à nouveau, mais enfin toujours, mais il y a aussi autre chose, quoi.
Alors déjà, du temps de mon père, c'était un peu le même programme. Enfin, il enregistrait ses bandes. Alors, il avait de très bon goût, hein, je dois dire. Hein. Pas qu'en classique d'ailleurs, mais bon. Donc, il faisait sa banque de programmes qui est différente de celle qui existe en musique classique comme en jazz. En radio en France, ce qui fait aussi l'originalité, ce qui fait qu'on a d'ailleurs une audience sur Internet qui est assez considérable, y compris à l'étranger. Quand je fais le point, je vois des mails d'auditeurs américains disent qu'il n'y a pas d'équivalent en jazz aux États-Unis de cette radio-là. C'est quand même assez étonnant.
Bon.
Et en classique, on a des auditeurs en Suisse, aux Pays-Bas, en Hollande, Grande-Bretagne, Allemagne, etc. Et donc, ils sont assez exigeants.
Mmh. Voilà. Donc,
on a parfois des débats.
Tu as touché la grille quand même.
Ah, j'ai beaucoup touché la grille.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu le même programme qui passait toute la journée. Maintenant, on a un programme le matin qui est assez ouvert avec tous les styles de musique classique, de musique Moyen-Âge jusqu'à la musique romantique. Sur le temps de midi, c'est uniquement classique et romantique. On a la musique du XXe siècle en début d'après-midi et classique romantique. Donc, on entend là des compositeurs, y compris les compositeurs français actuels.
Du XXIe aussi. Là.
Voilà, du XXIe aussi, qu'on n'entend pas ailleurs, qui sont très contents. Et puis après, on revient à des choses, j'allais dire, plus grand public pour de la musique classique et des œuvres courtes en fin de journée.
Et à nouveau du jazz le soir.
Et à nouveau du jazz le soir. Et là, pareil, il y a trois créneaux de jazz. Un créneau du soir, un créneau de la nuit et un créneau du matin, qui sont totalement différents.
Mais pas de retour du rock?
Ça m'est demandé de temps en temps.
Ah oui, quand même, ça serait un petit créneau là...
On ne va pas tout faire.
Quand on est mélomane, on est mélomane.
Oui, tout à fait. Mais alors, dans ces cas-là, on ne s'arrête plus.
C'est vrai.
Mais puis, on a aussi des magazines qui sont mis en place. Donc, c'est déjà beaucoup. Mmh. Alors, pour le retour du rock, bon, on a une petite idée en tête depuis pas mal de temps, mais là, ça sera sur Internet. Ça ne sera pas en FM.
D'accord. Mais justement, alors, il reste 2 minutes pour la question de finale. C'est comment est-ce que tu vois l'avenir de la radio? Vaste question, je sais. Hein. On n'a pas 2 heures.
C'est dommage. Je pense que, alors, on constate une érosion de l'audience, mais aujourd'hui, la radio, en règle générale, est écoutée par 70% de la population tous les jours. Et quand on voit toutes les sollicitations qu'on a, télé, internet, réseaux sociaux, loisirs, etc., je dis, arrivé à 70% aujourd'hui, ça va,
ça
c'est
résiste,
pas mal,
quoi.
Ça résiste bien. Je pense que ça va baisser encore un peu, mais ça va résister. Nous, on a la chance d'être avec un public qui a, pour les deux tiers, plus de 50 ans, qui est fidèle à la radio. Donc, pour nous, il n'y a pas trop de soucis. Je pense que c'est plus des radios musicales très jeunes qui, elles, doivent être plus en difficulté.
Bah, sauf à faire du repérage. Mais de toute façon, Neptune fait aussi du repérage, apparemment. Enfin, propose des musiques qu'on n'entend pas ailleurs. Donc ça, quel que soit le style musical, ça pourrait fonctionner, à condition de faire ça, quoi.
Effectivement, je pense que ce qui va faire la différence avec des web radios qui diffusent des trucs automatiquement, c'est la personnalité. C'est-à-dire on retrouve à Radio Évasion quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. C'est les caractéristiques pour ça. Et je pense que chaque radio qui arrive à avoir une identité propre est très affirmée. Moi, j'ai des choix en classique et en jazz qui sont très affirmés. Ça plaît pas, mais c'est affirmé. Mais au moins, on sait ce qu'on a. C'est pas un robot derrière. Ouais. Et je pense que c'est ça, comme dans les magazines, comme tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, traduira une patte humaine, va continuer.
Ouais, donc il y aura pas de radio. Enfin, s'il y a des radios robots, enfin, je sais pas si on peut appeler ça. Oui, ça a peu de chances de fonctionner, quoi, en fait.
Ça peut fonctionner, mais c'est lassant.
Ouais, tout à fait. Bon, eh ben, merci beaucoup, Jean-Louis Corvoisier, pour cette tranche d'histoire de la radio brestoise et de Neptune en particulier. Et on pourra bien sûr réécouter cet entretien sur le site internet de Radio Évasion et peut-être de Neptune. Hein, vous avez le droit, hein, partagez.
Ouais, tout à fait.